franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
L'Inventaire national du patrimoine naturel, un organisme qui centralise toutes les données concernant la biodiversité de notre territoire et qui va bientôt voir ses connaissances abondées par les aménageurs et promoteurs immobiliers en tout genre, puisqu'un décret publié la semaine dernière vient de rendre obligatoire la communication des résultats des études d'impact environnementaux. Un pas de plus vers la transparence, et on en parle avec vous, Jean-Philippe Ciblet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du service du patrimoine au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis dans ce studio, comme tous les lundis, notre confrère Hervé Kempf pour le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Un mot justement Hervé, avant d'entrer dans le vif du sujet. Une étude d'impact, c'est quoi tout simplement?
Vous savez qu'il y a beaucoup de projets d'aménagement en France. Ça va des déchetteries aux zones commerciales, aux voies de chemin de fer. Chaque année, on en compte 1780 projets qui, dans la majorité, qui dans la majorité des cas ont évidemment un effet sur l'environnement. Et donc, la loi impose que ces projets d'aménagement fassent l'objet d'une étude d'impact. Ça va consister à recourir à un cabinet spécialisé dont l'étude va être financée par le promoteur et qui va faire l'inventaire des espèces floristiques et faunistique, qui va faire un état des lieux initial de l'environnement. Mais jusqu'à présent, seulement le résultat global de cette étude d'impact était publié, en quelque sorte. Oui. Et en fait, dans plusieurs cas, comme par exemple le célèbre projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des naturalistes indépendants ont démontré que l'étude d'impact était vraiment très faible, incomplète. Et bien, cette nouvelle loi, le décret qui vient donc de passer la semaine dernière, mettra les données composant l'étude d'impact accessible, si bien qu'on pourra plus vite juger du sérieux de l'étude d'impact, éventuellement la discuter comme il arrive en matière scientifique.
Et puis c'est bon pour la science, justement. Axel.
Jean-Philippe Ciblet, est-ce que c'est vraiment un grand nombre d'abus de la part des bureaux d'études qui a conduit à l'adoption de ce décret?
Je ne pense pas qu'on soit d'ailleurs dans les mêmes problèmes de chronologie que Hervé Kempf vient de l'indiquer, parce que je pense que les données seront disponibles dans l'INPN probablement bien après qu'elles aient été collectées, parce que l'objectif de l'intégration de ces données dans l'INPN, c'est pas forcément d'assurer une surveillance de la qualité de l'étude d'impact. Ça s'est fait en amont par les services de l'État et puis également par les citoyens au moment des enquêtes publiques ou par les associations environnementalistes. Nous, l'objectif de l'intégration de ces données dans l'INPN, c'est justement de renforcer la connaissance globale et de pouvoir tirer des enseignements à une échelle nationale et pas forcément à l'échelle des projets concernés.
On parle de données, mais on parle de quoi exactement? De comptage d'espèces, de mesure de niveau de pollution? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors, vous avez parfaitement raison de poser cette question, parce que souvent, on se cache derrière un concept un peu général qui est le concept de données. Mais qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Pour nous, une donnée, c'est composé de 4 items. Un nom d'espèce, un nom de lieu, une date et un observateur. Voilà ce qui constitue pour nous la donnée et ce que nous gérons. Ensuite, il y a effectivement des informations qui peuvent venir se surajouter à ces données, des traits comportementaux, des données sur le climat, etc. Mais pour l'instant, l'INPN n'a pas en charge de gérer ces informations. Nous gérons une banque de données d'espèces qu'on peut d'ailleurs comparer peu ou prou à une collection. C'est-à-dire que avant on avait des insectes dans des boîtes ou des animaux en pot. Eh bien nous gérons une collection de données de référence sous une forme virtuelle.
Bah alors Jean-Philippe Ciblet, ça veut dire que tout d'un coup, là, vous allez avoir une masse d'informations en plus qui va vous parvenir, si je comprends bien, non?
Absolument. Alors actuellement, dans l'INPN, on a environ 40 millions d'observations pour à peu près 180 000 espèces qui sont documentées. Il est probable, il est même certain que ces chiffres vont augmenter. Bon, on a cité tout à l'heure le chiffre d'à peu près 2000 études d'impact par an. Si on considère que chaque étude d'impact va générer plusieurs milliers de données, on voit tout de suite que ça peut faire des chiffres conséquents. Donc oui, il va y avoir un flux de données nouvelles qui vont parvenir dans l'INPN et qui vont s'agréger à celles que nous avons déjà pour compléter la connaissance, notamment sur la répartition des espèces et sur leur évolution. Car ce qui est vraiment intéressant avec l'outil INPN, c'est non seulement de pouvoir avoir un état zéro, qu'on pourrait considérer comme un état de référence au moment où on consulte le site, mais aussi de pouvoir tracer l'évolution de ces espèces et mesurer leur état de santé.
Hervé Kempf.
Mais est-ce qu'on n'est pas quand même comme dans le cas de l'archéologie, où depuis maintenant de nombreuses années, on doit faire un inventaire archéologique avant la réalisation d'un projet? Alors c'est très bien, on recueille plein de données archéologiques, mais on fait le projet, on détruit ce qui existe. Est-ce que vous n'allez pas faire l'inventaire d'un monde disparu un petit peu?
Bah, en partie, mais je dirais chacun son rôle. En tout cas, le fait de pouvoir tracer ces évolutions, c'est aussi un moyen de conscientiser le grand public, de donner des éléments tangibles aux décideurs et de pouvoir finalement les mettre devant leurs responsabilités. Si ce travail n'était pas fait, personne ne serait capable de déterminer si le rythme d'extinction des espèces augmente, si l'état global de la biodiversité se détériore, et du coup, pas de raison de mettre en œuvre des moyens publics pour essayer d'y remédier. Donc, d'une certaine façon, oui, on documente un peu la disparition, quoique tout ne va pas forcément mal partout, mais en même temps, chacun son travail, je dirais.
Oui, puis on va peut-être vous donner des espèces que vous ne connaissiez pas aussi, hein, au hasard des études.
Absolument, tout à fait. On découvre des choses tout à fait étonnantes. Alors c'est vrai que les études d'impact ne s'intéressent que pour l'essentiel au visible, j'allais dire avec un fort tropisme pour les vertébrés. Et puis pour les espèces d'invertébrés, on va s'intéresser à celles qui sont les plus visibles, les papillons, les libellules, les sauterelles. C'est vrai qu'on a encore un pas à franchir pour s'intéresser à la faune du sol, qui est probablement un des secteurs où on peut découvrir le plus d'espèces nouvelles pour la science. Mais il est vrai aussi que on découvre aujourd'hui encore pas mal de choses. On est très loin d'avoir une connaissance exhaustive, même si, historiquement, cette connaissance n'a jamais été aussi importante.
Alors, puisqu'on a un archéologue en studio aujourd'hui, Hervé Guy, pour rebondir sur ce que disait Hervé Kempf.
Oui, alors moi d'abord dire que nous déjà le diagnostic archéologique c'est quelque chose de enfin que l'on pratique maintenant depuis très longtemps, depuis à peu près 30 ans, on en fait beaucoup notamment à l'INRAP et alors moi ça me fait un petit peu sourire cette question de biodiversité par rapport à l'archéologie puisque c'est une petite anecdote, j'avais organisé un diagnostic et sur le parcours du diagnostic, on m'avait signalé des chardons. et ces chardons, il fallait les éviter. Or pas très loin de là, 2 ans auparavant, on avait fait aussi un autre diagnostic. Et en fait, il se révèle que les chardons qu'on ne devait absolument pas faire disparaître, en fait, sur nos tranchées de diagnostic, ont réapparu. Parce qu'en fait, les graines étaient très enfouies. Et le fait de faire un diagnostic archéologique, ça fait revivre ces chardons.
Une question pour vous, Jean-Philippe Ciblé. Quels sont les espoirs de recherche avec ce nouveau canal de données qui va s'ouvrir?
Alors, elles sont nombreuses. Je vais juste rebondir 30 secondes sur ce qui vient d'être dit pour dire que le site de l'INPL, c'est également un site où on trouve des données archéozoologiques et archéobotaniques. C'est d'ailleurs un des rares sites au monde où on a en même temps sur des cartes, on peut faire apparaître une situation ancienne, très ancienne, et une situation actuelle. Alors, quelles sont les perspectives de recherche? Bah, elles sont extrêmement nombreuses. En particulier, il y en a au moins une que j'identifie qui est à partir de quand peut-on considérer que ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité pour le milieu naturel à se reconstituer et les espèces à perdurer, à partir de quand cette résilience n'est plus possible en termes de déstructuration des habitats, en termes d'artificialisation des sols. Et ça, je pense que c'est un problème vraiment extrêmement important. Par ailleurs, il y a un autre secteur qui est de mesurer. Alors, bien sûr, on est dans la mesure, on n'est pas dans la remédiation, j'en suis bien conscient, mais quand même de mesurer, non pas le nombre d'espèces qui disparaissent, parce que ça, on n'est pas vraiment capable de le faire actuellement, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs dire si les espèces qui disparaissent sont vraiment disparues. Tracer la disparition d'une espèce, c'est très difficile. Et on sait aussi que beaucoup d'espèces qui n'ont pas encore été décrites disparaissent. C'est peut-être d'ailleurs les plus nombreuses. Mais la question, c'est à quel rythme ces disparitions se produisent, parce que c'est finalement plus la crise de biodiversité dont on parle actuellement, c'est plus un problème de rythme qu'un problème de nombre. Mmh. Et la difficulté, c'est que le rythme est tellement rapide que les espèces qui disparaissent n'ont pas le temps d'être remplacées par d'autres qui viennent occuper les niches écologiques rendues vacantes.
Au sujet de la résilience, peut-être une toute dernière question courte de Hervé Kempf.
Est-ce que on n'a pas tendance, les naturalistes veulent souvent sur ces projets compenser, opérer des compensations. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux quand même éviter de détruire et de réaliser le projet?
Bah absolument, vous avez complètement raison. La doctrine aujourd'hui prônée par l'État dans ce type de problème, c'est éviter, réduire, compenser. Donc il est évident que la chose la plus efficace j'aurais presque dire la seule vraiment efficace, c'est l'évitement. Ne pas faire de projets destructeurs qui occasionneraient des pertes sèches à la biodiversité. On sait que c'est évidemment extrêmement difficile à obtenir, et de moins en moins d'ailleurs facile, parce que le territoire devient, si je fais une référence à la France métropolitaine, devient compté, il n'y a plus beaucoup d'espace, et donc c'est très très difficile d'éviter. La réduction, ça porte sur des choses qui sont quand même relativement mineures. On est capable de faire passer des animaux au-dessus d'un autoroute ou en dessous, on est capable de faire un certain nombre de mesures d'atténuation, mais ça reste quand même marginal. Reste la compensation. Le problème de la compensation, c'est qu'elle est souvent mal comprise, c'est-à-dire que compenser une perte à la biodiversité par l'entretien, la protection ou la gestion d'un milieu naturel qui est déjà riche, n'est pas une compensation, puisque finalement la perte sèche, elle va se mesurer à travers la disparition du site qu'on a détruit. On ne peut imaginer qu'il y ait compensation que si on recrée des espaces naturels ou si on restaure des espaces naturels dégradés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que encore une fois on a des problèmes de surface. Il y a des études récentes qui montrent que de toute façon le dispositif aura une limite naturelle qui est la limite de la superficie du territoire. Si on considère, alors c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, hein. Mais si on considère qu'un département français disparaît sous l'artificialisation tous les 10 ans, 15 ans, même 20 ans, si on veut prendre des marges, on voit bien que les espaces qu'il faudrait compenser, on ne sait pas où on va les trouver. Et le consentement de certains territoires, comme les territoires agricoles, à servir de lieu de compensation pour la biodiversité devient de moins en moins important. Donc,
allez, on arrête là.
Un vrai sujet.
On arrête là.
Qu'il va falloir traiter.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Sublet. Merci pour votre éclairage. Et puis, on peut retrouver des informations sur le site reporter.net. Hervé Kempf. Merci beaucoup, Axel. À demain.
Merci, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'humanité pèse 30 000 milliards de tonnes. Voici l'estimation du poids de l'ensemble des productions humaines de l'histoire faites par une équipe internationale. Cette masse représente 50 kilos de matière par mètre carré terrestre, partie intégrante des études actuelles menées sur l'entrée dans l'Anthropocène. Eh bien, ce résultat est un moyen original de représenter l'impact de l'humain sur sa planète. Les auteurs estiment que le nombre de technofossiles actuels, c'est-à-dire les objets produits par l'homme et enfouis sous terre, dépasse le milliard, soit bien plus que le nombre d'espèces vivantes sur Terre. Quatre nouveaux éléments du tableau périodique gagnent officiellement un nom. Il est souvent long et compliqué de nommer des éléments chimiques fraîchement découverts. Eh bien, l'Union internationale de physique pure et appliquée vient pourtant de valider une proposition faite en juin dernier pour les éléments 113, 115, 117 et 118 qui seront donc officiellement le nionium qui signifie la terre du soleil levant en japonais, le moscovium pour Moscou, la ténécine en hommage à l'état américain et l'oganesson en référence au professeur russe Yuri Oganessian. Et puis une faille gigantesque en train de s'ouvrir dans la banquise de l'Antarctique au sud de l'Argentine. Une photo publiée samedi par la NASA montre cette cassure impressionnante, large de 90 mètres et longue de 110 km, profonde comme la banquise de 500 mètres, cette fracture, une fois parvenue jusqu'à la mer, détachera justement un iceberg de la taille de la Savoie. La rupture prévue dans la prochaine décennie sera la troisième plus grosse jamais enregistrée. La photo du gouffre est à voir sur le Facebook de l'émission.